VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Conakry, midi à Yaoundé. Bienvenue dans notre journal. L'ex-président tchadien Hissène Habré sera jugé au Sénégal à partir de juin. C'est ce qu'affirme le ministre sénégalais de la Justice. Des précisions avec Bagassi Koura.
Maître Sidiki Kaba a annoncé que d'ici 2 mois, lorsque les juges seront imprégnés du dossier, on entrera dans la phase active du procès, ajoutant que sans doute ça va être au mois de juin. Le ministre s'exprimait à Dakar lors de l'installation des juges des chambres africaines extraordinaires. Ce tribunal spécial chargé de juger Hissène Habré, la cour sera présidée par le juge burkinabé Berdao Gustave Kam, qui sera assisté de 3 magistrats sénégalais. Ils ont été nommés par l'Union africaine qui a demandé au Sénégal d'organiser ce procès. Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Mais le ministre Kaba a précisé que si l'accusé est reconnu coupable, il ne sera jamais condamné à mort parce que le Sénégal a aboli la peine de mort en 2008.
Présidentielle au Togo, les électeurs se rendent aux urnes demain pour élire leur prochain président après une campagne électorale qui s'est terminée hier. Retour sur le dernier jour de campagne des 5 candidats avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Pour ce dernier jour de campagne, CAP 2015 a sorti le grand jeu à Lomé. Plus de 8 heures de caravane distante sur des milliers de mètres. Jean-Pierre Fabre et sa suite ont parcouru les différentes artères de Grand Lomé. La vague orange a achevé sa course au stade Omnisport de Lomé, archi-comble pour cette ultime sortie du candidat de CAP 2015.
Nous descendons depuis l'extrême nord. Nous sentons depuis quelques jours une aspiration au changement. Nous voyons que les populations sont mobilisées vers l'objectif final, qui est la victoire des forces de changement.
Initialement annoncé à Kara pour le dernier jour de sa campagne, le président sortant n'a pas fait le déplacement de sa ville natale. Tout comme son challenger, Fonia Singbe a battu campagne dans le Grand Lomé avec des meetings dans 3 cantons dans les banlieues de Lomé.
Si j'ai tenu à faire tous ces cantons, c'est pour vous expliquer que ce que nous avons commencé dans la commune de Lomé, nous allons l'étendre aux cantons environnants. Nous commencerons par renforcer la sécurité dans ces quartiers qui ne sont pas toujours éclairés. Nous allons construire et réhabiliter les salles de classe.
Le candidat notaire est retourné dans son Sokodé natal pour clôturer sa campagne. Même si le candidat du MCD met la justice au centre de son programme de société, Maître Mohamed Tchassona Traoré n'a pas manqué de fustiger la dynastie présidentielle au Togo.
Ce pays est indépendant depuis 55 ans. Quand vous regardez un peu notre évolution en comparaison avec nos voisins, le Ghana à côté, le Bénin à côté, au moins dans ces pays, ils ont compris qu'une seule famille à la tête de l'État, et ils ont fini avec. Ici, après le père, on a le fils. Les gens ont pris le pays comme s'ils en avaient obtenu un titre foncier et ils le gardent ad vitam, transformant tous les citoyens togolais en presque des sujets.
Retour à la terre natale, c'est ce que le professeur Aimé Gogué, candidat de Hadi, a aussi faire en ce dernier jour de campagne. Le natif de Dapaon dit mieux incarner l'aspiration du peuple togolais pour l'avènement de l'alternance dans le pays.
Nous avons l'impression que certains se contentaient du titre d'opposant. Mais pour nous, nous devons passer à une autre étape qui consiste à avoir véritablement l'alternance pour mettre fin à l'hégémonie, au pouvoir d'unir. La population veut une alternance qui signifie également changement de personnes, mais surtout changement de la manière de gouverner, de diriger ce pays.
Directement, le plus jeune des candidats a pendant ces 14 jours apporté un message articulé autour de 3 pôles. Même message délivré ce 23 avril à Thiévié, à 30 km au nord de Lomé.
La première, c'est le développement économique inclusif. Le deuxième, c'est les réformes politiques, constitutionnelles, institutionnelles. Et le troisième, il faut régler le problème des fonctionnaires avec la possibilité d'augmenter de 30% des salaires l'ensemble des fonctionnaires.
Pendant la dizaine de jours qu'a duré la campagne électorale, l'ambiance était bon enfant, ce qui tend à rassurer les populations qui veulent rompre avec le cycle élection, contestation, violence. Kailson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Burundi, le parti au pouvoir CNDD-FDD choisit demain son candidat à la présidentielle de juin. Un jour de tous les dangers, selon beaucoup d'observateurs politiques dans le pays. Pourquoi? Idriss Fala joint à Bujumbura Noël Nkurunziza, représentant de Transparency International.
C'est un samedi au Burundi parce qu'il est programmé une assemblée des membres du parti au pouvoir et lors de cette assemblée, on devra élire le candidat qui devra être présenté comme candidat au présidentiel et il y a de fortes chances que ce soit le président actuel qui reviendrait pour faire encore 5 ans après les 10 ans qu'il vient de diriger le pays, ce qui est contraire aux accords d'Arusha et de la Constitution.
Contraire à la Constitution nationale parce que le président Pierre Nkurunziza a déjà effectué 2 mandats à la tête de l'État, déclare l'opposition. Or, la charte fondamentale limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais les partisans du chef de l'État répondent que le président Nkurunziza n'a pas été élu au suffrage populaire, mais par le Parlement pour son premier mandat. À leur avis, ses 5 premières années au pouvoir n'entrent pas en ligne de compte. En RDC voisine, la reprise des combats dans la province du Nord Kivu a fait plus de 60 000 déplacés le mois dernier, selon les organisations humanitaires. Mais le nombre total de déplacés dans la région est en baisse, d'où la décision du gouvernement de fermer plusieurs camps aux environs de Goma, le chef-lieu provincial. Notre correspondant Nick Long s'est rendu dans l'un de ces camps. Les grandes lignes de son reportage avec Lionel Gaïma.
Au camp de Mugunga 3, près de Goma, Justin Massoudi, âgé de 62 ans, et sa famille vivent sous une tente depuis 2008.
Pour moi et ma famille, je n'ai pas encore de place à rentrer. Je n'ai pas une place, puisque mes chats sont déjà spoliés à Walikale, là où je suis venu. Il y a des ennemis, une fois si j'arrive encore là-bas, c'est pour me tuer. Moi, je reste ici aux mains des ACR.
De nombreux déplacés aimeraient retourner dans leur localité d'origine, affirme Justin Massoudi.
Oui, presque 60% des déplacés d'ici à Mugunga voulaient rentrer chez eux, hein, ou bien aller rester ailleurs, quel n'importe où. Comme moi qui suis venu de Walikale, je peux changer.
Par le passé, lorsque le gouvernement fermait les camps, il ne se présentait que 2 options aux habitants, s'intégrer dans les communautés voisines ou rentrer chez eux. Mais ces derniers mois, une 3e option est de plus en plus offerte, la réinstallation, qui permet aux déplacés de refaire leur vie ailleurs. Selon le président congolais Joseph Kabila, cette option devrait contribuer à moderniser les conditions de vie dans les zones rurales. C'est ainsi que le HCR a demandé aux 17 000 personnes déplacées des environs de Goma où elles veulent se rendre à la fermeture de leur camp. Patrice Awansu travaille pour l'agence onusienne.
Environ 50% des déplacés veulent s'installer ailleurs, dont 2% veulent s'installer autour de Goma et 46% veulent rentrer chez eux.
Justin Massoudi s'est inscrit au programme de réinstallation, mais il dit avoir besoin de transport, des rations alimentaires pour un certain temps et aussi d'un abri.
Le moyen de transport, il n'y en a pas, on n'a même pas de véhicule. Encore le kit là, il y a les agents qui veulent détourner ça. Ils font dire aller à Routchou, il arrive là-bas, on ne donne pas de kit. Aussi des rations, au début c'est toujours difficile, il faut un peu de la ration pour rester là-bas, il n'y a pas de maison.
Pour Chantal Kambimbi, une autre habitante du camp de Mugunga 3, le dernier mot revient aux autorités.
Ça revient au gouvernement de dire, ici il y a une école, il y a un centre de santé, ici il y a la route, il y a un marché, il y a ceci, pour que l'on puisse délocaliser ces gens et les amener vers ces milieux-là.
Les travailleurs humanitaires avertissent qu'il faut assurer une bonne planification et un bon financement tant pour les réinstallations que les retours dans les villages d'origine. Une attention particulière doit être accordée aux personnes âgées et vulnérables vivant actuellement dans les camps, souligne-t-il.
Actualité américaine, la procureure fédérale Loretta Lynch est depuis hier la première femme noire à diriger le ministère de la Justice. Michel Joseph.
Madame Lynch remplace à ce poste Eric Holder, également le premier Africain-Américain à assumer de telles fonctions. Diplômée de Harvard, tout comme M. Obama, Loretta Lynch a une solide réputation de procureur dont l'approche est caractérisée par le pragmatisme. Malgré tout, elle a été l'otage des désaccords politiciens entre la Maison-Blanche et des parlementaires républicains qui lui reprochent son soutien au décret pris par M. Obama sur l'immigration aux États-Unis. En réaction au vote d'hier, Barack Obama s'en est félicité, déclarant que c'est une bonne nouvelle pour l'Amérique qui doit régler des problèmes dans les domaines de la réforme, de la justice criminelle, du cybercrime et de la sécurité nationale. Il faut dire que Mme Lynch va hériter de cas de droit civique brûlants suite à des confrontations mortelles entre la police et des Noirs non armés dans plusieurs villes des États-Unis.
Merci pour votre attention.
Soyez au cœur de l'info.